Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vaut une vie, une œuvre de l'été. Notre portrait aujourd'hui, celui du créateur de Nestor Burma, Léo Mallet, 1909-1996. Léo Mallet était écrivain, mais vous connaissez l'histoire, l'écrivain a presque toujours besoin d'un second métier. Mallet, lui, a tiré le diable par la queue, comme on dit, et ce n'est pas faute d'avoir eu de second métier, puisqu'il a été nègre, chansonnier, laveur de bouteilles chez Félix Potin, vendeur de journaux à la criée et d'autres choses encore. Ce n'est que dans les années 70 qu'il connaîtra la reconnaissance, trop tard sans doute pour éviter l'amertume. Il n'en reste pas moins le père du roman policier à la française qui attache au décor une place très importante et porte sur un monde noir et sanglant un regard toujours empreint malgré tout de poésie, comme vous allez l'entendre dans cette émission de Céline Duchesnet et Gilles Davidas, déjà diffusée une première fois, c'était le 24 mars 2012.
Paris-Londres d'un seul trait, 594 francs.
Prix soumis à condition, renseignez-vous vite dans les gares SNCF et les agences de voyage.
France Inter, il est 19h, le journal Patrice Bertin.
La mort du poète et écrivain Léo Mallet, victime d'une crise cardiaque dimanche à la veille de son 87e anniversaire. Léo Mallet a déjà été enterré dans la plus grande simplicité au cimetière de Châtillon-sous-Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Son truc à lui, c'était les polars, les romans policiers. C'était le père du célèbre Nestor Burma.
Monsieur Burma,
j'ai peur, très peur.
Qui veut la peau de Nestor Burma? Un documentaire de Céline Duchesnet et Gilles Davidas.
Vous avez été imprudent de venir ici, monsieur Burma. Vous auriez mieux fait de surveiller les fréquentations de votre secrétaire.
Édition spéciale.
Nous venons d'apprendre à l'instant même que le détective privé Nestor Burma a été victime d'une nouvelle tentative d'assassinat. Des coups de feu ont été entendus à l'agence Siatlux. La police s'est immédiatement rendue sur place. Le commissaire Florimond Farou n'a pas voulu faire de déclaration. Rappelons que Nestor Burma, l'homme qui met le mystère knockout, a failli perdre la vie dans déjà 15 arrondissements de Paris. Nestor Burma, un homme à abattre, nous tenterons dans nos prochaines éditions d'en savoir davantage et commencerons par mener l'enquête sur le passé trouble du détective privé, très lié au mouvement anarchiste de la fin des années 20. À Paris, Stéphane Père pour Une vie, une œuvre.
Pourquoi est-ce qu'on a envie d'éliminer Nestor Burma? Qu'est-ce qui fait que c'est un personnage qu'on veut assassiner régulièrement ou frapper régulièrement?
Dans ce monde un peu dans lequel il évolue, il représente l'électron libre, c'est-à-dire
qu'il
va où le vent le mène et où il a envie d'aller. Et à ce titre-là, il va voir les choses qui sont, pour reprendre l'expression de Macorlan, les choses derrière les choses. Et forcément, quelque part, il dérange, il gêne. C'est quelqu'un qui est quand même de tempérament indépendant, pour ne pas dire libertaire. Donc voilà, il y va à fond. Et il n'aime pas bien qu'on lui dise où il ne faut pas aller. Donc forcément, à un moment donné, dans sa vie, il aura moult raisons d'être assassiné. Voilà, c'est un fureteur, un gêneur.
Libertaire, anarchiste plutôt, Nestor. Dans le roman Brouillard au Pontelbiac, à l'occasion d'une enquête menée dans le 13e arrondissement de Paris, le détective privé se retrouve confronté à sa jeunesse. On y apprend qu'à l'âge de 16 ans, en 1925, il découvre l'anarchisme. Sa vie prendra alors un tout autre tournant. Et dans les journaux de l'époque, on parle encore du célèbre samedi 24 novembre 1923.
En 1923, Philippe Daudet a été trouvé mort dans ce fameux taxi. Et c'est devenu, au bout de quelques mois, une affaire nationale, évidemment. Le fils de Léon Daudet, les anarchistes, la politique s'en mêlant, en admettant qu'elle n'ait jamais été absente de cette affaire. On en a parlé dans tous les journaux. Et moi, évidemment, ce fait divers-là, particulièrement extraordinaire, m'a passionné. Et on parlait du Libertaire, on parlait du journal Le Libertaire. Alors j'ai acheté Le Libertaire. Et en lisant les articles du Libertaire, je me suis aperçu que, comme dit l'autre, J'étais le Jourdain de l'anarchisme. J'étais anarchiste sans le savoir. Il développait là-dedans des idées qui étaient naturellement les miennes, c'est-à-dire celles qu'on a quand on a 15 ou 16 ans, n'est-ce pas ? Alors un beau jour, fin novembre, j'ai touché ma paye à la banque Castelnau. Je gagnais 150 francs. Je n'ai rien dit à personne. Le soir même, j'ai pris le train et le lendemain, 1er décembre 1925, je débarquais à la gare de Lyon à 9h du matin. Parce qu'à ce moment-là, le train pour Paris partait de Montpellier à 7h du soir et arrivait à Paris à 9h du matin. Alors, les premiers temps, j'ai couché chez Colomère sur un divan qui avait abrité, à une époque, Germaine Berton et à une autre époque, Émile Cottin. C'est-à-dire Germaine Berton qui a tué d'un coup de revolver Marius Plateau,
oui,
un des collaborateurs de Léon Daudet, et Émile Cottin qui avait tiré sur Clémenceau. Le soir même, j'ai cassé la croûte au foyer végétalien. Végétalien, attention, pas rien. Le végétalien est un type qui ne mange exclusivement que de l'herbe.
C'est ça.
Le végétarien se permet de manger des œufs. Le végétalien, pas du tout. Il y avait même un végétalien, parce que chez les anards, on trouve des personnages étonnants. Il y en avait un qui prétendait que pour bien savourer l'herbe, il fallait se mettre à quatre pattes et la bouffer comme ça. La mettre sur une table, c'était déjà une hérésie.
C'est ça.
Alors, le foyer végétalien, il y avait des dortoirs. Ça coûtait 15 francs par semaine. Alors là, on était toute une bande de personnages plus ou moins douteux.
Il aime semer derrière lui de la nostalgie. En fait, il sème la merde.
Il couche sous les ponts, il brûle le dur. Un jour, il est sous un pont, il y a un clochard qui le cafte. Deux hirondelles passent.
Jacques Baudou.
On le met en prison pour vagabondage et il se retrouve, après quelques mois de prison, lâché dans la nature. Et c'est là qu'il trouve refuge au foyer végétalien. Il va essayer de se sortir de la mistoufle en trouvant ce job de marchand de journaux.
Pourrissoir, les cons, suçoir derrière.
Qui va être critiqué d'ailleurs par son camarade anarchiste qui dit « Vendre des journaux de la presse bourgeoise, c'est pas bien ». Et en même temps, il dit, Nestor Burma, que... il a eu très souvent très faim et qu'il allait souvent dans un café pas très loin du foyer végétalien où on avait des œufs durs sur le comptoir et on mangeait deux ou trois et puis des croissants aussi et il en payait qu'un. Donc là aussi, la débrouille, la démerde jusqu'à ce qu'il trouve sa vraie vocation qui est celle de détective privé, mais avant il aura exercé d'autres métiers.
Monsieur Burma Nestor pour les dames se promène au milieu des drames. Son métier c'est de les éclaircir. Monsieur Nestor c'est un détective à qui des tas de trucs arrivent. Il s'en fout, ça lui fait plaisir. Il n'est pas dans la capitale, un meurtre ou autre action brutale, où il n'aille fourrer son nez. Et chaque matin dans son burlingue, lui faut quelqu'un mort d'un coup de lingue, en guise de petit déjeuner.
Hélène !
Patron ?
Hélène, viens ici.
Oui ?
Agence Fiat-Luc, j'écoute. Dans mes premiers bouquins, il y avait un journaliste. Je ne voulais pas faire un policier ordinaire, un Maigret, un policier officiel.
Ou Arsène Lupin.
Arsène Lupin était déjà pris. J'aurais bien fait un Arsène Lupin, mais c'était déjà pris. Maigret ne m'intéressait pas parce que les commissaires de police, en général, ne m'intéressaient pas. Alors je me suis dit, je vais mettre un bonhomme qui se rapprochera un petit peu de toi-même, un petit aventurier, comme ça, un gars qui vient on ne sait d'où. Et alors je vais en faire un détective privé. Et alors voilà, et alors je l'ai appelé Burma parce que j'avais lu... dans un bouquin, un bonhomme qui venait de Burma, parce qu'il y avait une mauvaise traduction, c'était un type qui venait de Birmanie. Mais comme le traducteur ne connaissait pas plus l'anglais que le français, il avait traduit Burma par Burma, alors qu'il aurait fallu dire Birmanie. Et comme moi, je ne connaissais pas plus la géographie que ce gars-là, et l'anglais encore moins, Burma, ça m'avait frappé. Et je l'ai appelé Nestor, parce que ça faisait Nestor Burma, ça faisait baraque foraine, vous savez. D'ailleurs, si un jour à la télévision on faisait des aventures de Nestor Burma, je voudrais qu'à la suite de l'apparition du carton Les Aventures de Nestor Burma, il y ait un énorme coup de cymbale, comme à la fête du trône. Avec qui voulez-vous lutter, voilà.
C'est le détective de choc, Monsieur Nestor, qui ne craint pas de choquer les contenances dans les mystères de Paris. Paris, ne fonctionnant qu'au tabac gris. Il avance sa pipe à tête de taureau, aide à mettre le mystère KO, car c'est toujours lui matador, Monsieur Nestor.
Petit à petit, je me suis identifié au personnage. Enfin, identifié dans une certaine mesure, parce qu'il fait des choses que moi je suis incapable de faire. Par exemple, s'il donne un coup de poing à un bonhomme, il en descend deux d'un même coup. Ça, c'est une chose, physiquement, je suis incapable de le faire. D'ailleurs, je le regrette parce qu'il y a des fois, ça serait utile. Hein. Bon. Et petit à petit, je lui ai fait raconter des histoires. Il y a eu des allusions à un passé, récent ou lointain, parce que ça venait en situation et puis ça me permettait, moi, de me rappeler à moi-même peut-être quelques souvenirs, je ne sais pas.
Oui, mais il a souvent répété Nestor Burma, c'est moi. Mais quand on regarde la biographie de Nestor Burma, on est frappé par de très nombreuses similitudes. La jeunesse, la naissance à Montpellier, la jeunesse, le fait de monter à Paris très tôt, le fait d'être arrêté pour vagabondage et d'être en prison, mis en prison à la Petite Roquette, le fait d'à un moment de trouver asile à Lyon. Enfin, si on peut retracer comme ça, il y a beaucoup d'éléments de ressemblance. Mais il y a aussi des éléments de différence assez importantes. C'est-à-dire qu'à un moment, Nestor Burma devient détective privé, ce que n'a jamais été Léo Mallet. Et ensuite, Nestor Burma part faire la guerre d'Espagne, ce que n'a pas fait Léo Mallet. Un peu plus tard, on va à nouveau renouer avec la ressemblance des deux, puisque Nestor Burma va se retrouver dans le même stalag que Léo, sans doute pas pour les mêmes raisons. Je pense que Nestor Burma a dû faire la guerre dans les corps francs, alors que Léo Mallet faisait partie plutôt de cette mouvance surréaliste, plutôt pacifiste.
Blonde platinée, brunes ou rousses, il les aime toutes et ne repousse nulle lèvre brûlant cadeau. Mais à toutes ces mômes en artiste, il préfère dans un décor triste la fille coupée en morceaux. Non que Monsieur Nestor soit sadique, oh, il a plutôt l'âme romantique. Mais son sacré cochon de métier lui fait se dire devant ce crime, le mystère comme la victime ne restera pas longtemps entier. C'est le détective de choc, Monsieur Nestor, qui ne craint pas de choquer les convenances. Dans les mystères de Paris, ne fonctionnant qu'au tabac gris, il avance sa pipe à tête de taureau, l'aide à mettre le mystère KO, car c'est toujours lui le matador, Monsieur Nestor.
Gilles Gudin de Valrhin, conservateur et directeur des médiathèques de Montpellier.
Voilà, donc on nous dit, nous allons à la salle Léo Mallet, vous voyez, au troisième étage. Mais allez, bien sûr, on n'y rentre que sur rendez-vous, puisque c'est un peu une salle musée, enfin magasin et musée, c'est entre les deux. Puisqu'on peut exposer des documents dans des vitrines, mais on peut ne pas les mettre aussi pour ne pas les laisser tout le temps pour des raisons de conservation. Surtout les papiers. Et ce qu'on fera, mais c'est moi qui les toucherai, je ne voudrais pas les toucher, je vais ouvrir là. Je vais ouvrir là. Parce qu'il y en a qui sont fragiles. Voilà, il y a des objets.
Voilà. La boîte à tabac.
La boîte à tabac. Et lorsqu'on a fait l'exposition, on avait acheté effectivement du tabac Scarfellati qu'il utilisait. Et on a donc ces pipes. C'est différentes pipes, mais il y en avait beaucoup, hein, puisque... Et on en a exposé une à pipe de taureau dans la vitrine. Voilà, donc on pourra venir voir si on veut compléter les objets. Mais vous voyez, des objets très, très, très divers, vous voyez, parce qu'il y avait même des objets, c'était un petit peu de la provocation, de l'humour, il adorait. Voilà la carte de visite. Nestor Burma, détective de choc. Agence Fiat Luxe.
Alors justement, ce personnage de Nestor Burma, dans cette pièce, qu'est-ce qui appartiendrait à Nestor Burma? Qu'est-ce que vous avez là qui nous parle de Nestor?
On a la machine à écrire, c'est quand même, j'allais dire, on peut considérer que Léo Mallet est le père et que la machine à écrire est la mère, parce qu'il tapait tout sur cette machine à écrire, dont l'histoire est assez amusante, puisqu'elle avait appartenu à Clément, qui était le secrétaire de Trotsky, et qu'il hébergeait à Paris, puisqu'à l'époque, il était trotskiste. Et ce Clément a malheureusement eu un petit accident, comme il arrivait dans les années 30 à Paris, à la fois au rouge et au blanc. Il s'est retrouvé dans la Seine et voilà, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc il a hérité de sa machine à écrire sur laquelle il a écrit tous les Nestor Burma.
Burma.
Oui, je suis là. Et vous me connaissez donc ?
Oui. Burma. Dites à Hélène.
À Hélène ?
Hélène. 120 rue de la gare.
120 rue de la gare.
Alors, comme souvenir, on a évidemment, là je les ai montés, les nouveaux mystères de Paris. On a aussi toutes les éditions, bien sûr, 120 rue de la Gare. On a des tapuscrits de ces différentes œuvres à noter. Et on voit des fois qu'il y a des variantes qui hésitent dans les titres. Voilà. Donc c'est intéressant pour la genèse de l'œuvre.
Et je reviens sur Nestor Burma. Est-ce qu'il y a des objets qui, évidemment, appartiennent à Léo Mallet, que l'on retrouve dans le quotidien de Nestor Burma?
Voilà, on les a mis ici. On a les pipes à tête de taureau. Là, j'en ai sorti deux qui sont peut-être parmi les plus belles, qui sont vraiment à pipe de taureau. Il y en a d'autres qui sont plus courantes, mais celles-ci sont très très belles. On a plusieurs centaines de photographies dans ce fond et on voit une qui est assez amusante où il s'était mis en scène, là je parle de Léo Mallet, vous voyez, il est dans son imper et il s'est accroché un porte-manteau. Vous voyez, il avait vraiment le goût de la provocation. Là on revoit les femmes avec un montage, vous voyez, des journaux accrochés à un buste féminin d'une femme bien, bien découverte. Bon, là dans les photographies, on l'a évidemment dans les années 30. Hein, et on l'a en 1948 quand il reçoit le premier prix, le prix, c'était le grand prix de littérature policière, hein, et ça lui est remis par Simone Signoret, Andreb, qui est très important évidemment, et René Barjavel.
Débute Chaumont à Grenelle, Opéra passe la chapelle, et de la foire du trône à d'enfer, Monsieur Nestor se silhouette, la pipe au bec toujours en quête d'une bizarrerie dans l'air.
Arsène Lupin ne puit, Maigret ne daigne, Nestor Burma suit.
De relations très éclectiques, il connaît homme politique, Trottin, Tapin, maître chanteur. De nombreux assassins il traque, jusqu'à ce qu'un coup de matraque mette le comble à son bonheur. C'est le détective de choc, Monsieur Nestor, qui ne craint pas de choquer les convenances.
Alors nous sommes devant le 11 rue Médicis, donc devant les éditions José Corti, et c'est un lieu qui est très important pour Léo Mallet et pour le surréalisme. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi cette vitrine est importante, Jacques Baudou?
C'est là, en passant devant cette vitrine, à l'époque il travaillait, hein, il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années, que Léo Mallet a vu... dans la vitrine exposée une revue très importante qui était la revue surréaliste de l'époque, hein, la Révolution surréaliste. Il y avait une plaquette sur les surréalistes et puis un dessin d'un peintre surréaliste. Et ça l'a suffisamment intrigué pour qu'il revienne quelques jours plus tard acheter... le numéro 12 de la Révolution sur Alice, c'est le dernier numéro de la revue. À la suite de quoi, après l'avoir lu, il a commencé à écrire des poèmes avec cette pratique surréaliste de l'écriture automatique. Et puis, avec l'inconscience des 20 ans, il a envoyé quelques-uns de ses poèmes à André Breton avec une lettre.
Monsieur, je dis monsieur, vous déciderez si vous pouvez un jour me répondre camarade. Je viens de terminer un petit travail qui paraîtra je ne sais où et je ne sais quand, dans lequel j'affirme ma confiance absolue en le surréalisme que je viens seulement de découvrir, et ce, 6 ans après l'apparition du manifeste. Dans ces quelques pages, j'expose tout d'abord les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu connaissance du surréalisme plus tôt. J'explique pourquoi je crois en votre sincérité révolutionnaire. Et enfin, je cite 2 rencontres, la première avec le chien andalou, la deuxième avec S. Dali au sujet de l'âne pourri. Je tiens à votre disposition tous les renseignements concernant ces 2 rencontres, encore qu'imparfaites, elles peuvent peut-être vous intéresser. Cette manifestation d'amitié, cette prise de position se termine par un paragraphe suivant, titre « Un appel dans le jour ». Aujourd'hui, qu'après lecture des 2 manifestes m'a été révélé le mystère surréaliste, aujourd'hui, que les essais d'écriture automatique ont été pour moi concluants, pour tout ce que le surréalisme apporte de joie à mon âme, pour la résurrection que je lui... Il manque 1 ou 2 mots, là, vous voyez, une partie de...
Tourner la page.
Voilà.
Et donc ça, c'est une lettre qui date du...
5 mai 1931.
Contre toute attente... André Breton lui a répondu et lui a dit « Mais ce que vous m'avez envoyé m'intéresse beaucoup, venez nous rejoindre. » Et Léo Mallet a été invité par André Breton à les rejoindre au Cyrano, où avait lieu la cérémonie des apéritifs surréalistes au Mandarin Curaçao.
J'ai envoyé ça un peu comme une bouteille à la mer, je ne sais pas. Je crois, vous voyez, là, il y a eu quelque chose, le destin est venu frapper à la porte. Je suis allé le voir au Café Cyrano, j'ai fait le même jour la connaissance d'Éluard, d'Aragon, et j'ai été accepté d'emblée. J'ai lu récemment que certains membres du groupe surréaliste étaient soumis à une sorte de stage, de choses de ce genre. En tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai jamais passé d'examen.
Patrick Pêchereau, est-ce que vous êtes sensible aussi à cette rencontre de Léo Mallet du surréalisme ?
Oui, d'autant plus qu'elle est presque surréaliste, puisque c'est en livrant un bidet que Léo Mallet s'est arrêté devant cette librairie de José Corti. Et évidemment, le bidet fait référence a posteriori à Duchamp, bien sûr, et ses ready-made. Donc il y a un côté comme ça, hasard objectif, qui souligne encore la chose et la poésie de la chose.
Voilà, donc chez José Corti, on pourrait peut-être rappeler pourquoi est-ce que c'est un lieu important pour le surréalisme. Patrick Pêchereau ?
Oui, il faut préciser aussi qu'il a laissé des traces relativement importantes dans le mouvement surréalisme, puisque André Breton le crédite dans son dictionnaire abrégé du surréalisme, et il a inventé 2 techniques qui sont le décollage d'affiches, qui consiste à décoller ou à lacérer la première couche d'un affichage dans la rue pour faire apparaître les images qui sont en dessous de façon à donner un effet de collage comme ça surréaliste. Et l'autre sont les objets miroirs, où il fabriquait des petits objets dans lesquels il incluait un miroir qui donnait une vision déformée de la réalité et qui correspondait assez souvent à des visions sexuelles de l'objet. Et puis il a publié plusieurs plaquettes, dont une chez José Corti, d'ailleurs, de poèmes surréalistes, les premiers l'ayant fait connaître d'André Breton. Mais il n'a pas fait que passer dans le mouvement. Il y est resté quand même une douzaine d'années. Il a collaboré à la main à la plume pendant la guerre.
Hélène ! Hélène !
Patron ?
Reconduisez Mademoiselle Verbois.
Bien, patron.
Oh là. Agent Siatluc, j'écoute.
C'est Reboul, patron.
Est-ce qu'au niveau de l'écriture de Léo Mallet, on retrouve dans ces polars quelque chose qui est de l'ordre du surréalisme? Oui. Patrick Pêchereau.
Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a des passages entiers, surtout les passages oniriques. Nestor Burma a la particularité de prendre des coups sur la tête, et assez souvent, quand il prend un coup de matraque, il part dans une demi-conscience ou une demi-inconscience qui sont peuplées de rêves, qui très souvent sont des rêves à connotation surréaliste. Certains d'entre eux sentent un petit peu aussi l'écriture automatique. Et des plus belles références au surréalisme dans les romans de Mallet, au moins ceux qui mettent en scène Nestor Burma, c'est Les rats de Montsouris, autour de la description comme ça d'un visage de cadavre dans les réservoirs sur lesquels sont incrustés les coquillages. Oui, il y a comme ça quelques fulgurances poétiques qui sont indéniablement surréalistes dans ces bouquins.
Oui, d'ailleurs, dans Les rats de Montsouris, toujours, il y a Nestor Burma va...
Jacques Baudou.
Va chez Anatole Jakovsky, qui était un membre du collège de pataphysique, qui venait d'écrire un ouvrage sur Alphonse Allais, qu'André Breton a mis dans son anthologie d'humour noir, et Anatole Jakovsky, qui était un amateur d'œuvres d'art, lui montre, et Nestor Burma fait découvrir ça à Hélène, une espèce d'objet surréaliste.
Il trônait dans le clair-obscur d'une pièce du fond, encombré de lanternes magiques et de bronze 1900. C'était un de ces bustes qui servent dans les vitrines des boutiques de lingerie à présenter des soutiens-gorge, mais qu'une imagination délirante avait transformé en l'objet poétique le plus étonnant qui se puisse rêver. Une sorte d'insolite épave, de tronçon de sirène. On ne savait quelle hallucinante figure de proue, de quel vaisseau fantôme, caressé par les algues visqueuses, et où seraient venus se poser comme des baisers solidifiés des coquillages rugueux et polychromes. Car, sans bras ni tête, et pathétiquement cambré, il était recouvert, du cou à la taille, d'un conglomérat de coquillages marins et d'escargots agglutinés, se chevauchant immobile, mais paraissant grouiller en un permanent assaut. Je ne connaissais pas d'exemple plus typique de ce que l'on a appelé l'objet bouleversant surréaliste. « Comment trouvez-vous le bouillon ?» demandai-je à Hélène. « C'est surprenant, dit-elle. « Celui qui m'a vendu ça, dit Jakovsky, prétendait l'avoir trouvé tel quel sur une plage. » Il voulait me faire croire qu'il s'agissait d'un objet naturel. Je lui ai demandé s'il se foutait de moi et j'ai obtenu un rabais. « Parfait, dis-je. Et maintenant, à moins que l'un de nous avale du pétrole ou exécute un numéro de striptease, nous allons nous tirer. Nous nous tirâmes. La poésie, c'est très joli, mais ça nourrit pas son homme. Il fallait songer un peu aux affaires sérieuses. »
En cette année de récession générale, j'avais plus les moyens d'envoyer balader les clients. C'était même eux qui me baladaient. J'en étais réduit à la banale filature d'un couple illégitime. Celui-là filait le parfait amour. Et moi, je filais un mauvais coton. Une vraie série noire. Comme ma situation, à moi, Nestor Burma, détective privé. Privé de tout.
Et puis, il y a autre chose aussi, peut-être moins connue, c'est que les surréalistes s'intéressaient beaucoup aux faits divers. Aux faits divers un peu sensationnels, on trouve beaucoup de références à des faits divers du même type dans Nestor Burma. Le côté crime sortant tout à fait de l'ordinaire. Par exemple, à un moment, il a aidé un maître chanteur à rédiger un journal assez crapuleux. Bon, il a connu des personnages très, très étonnants à la frontière de la loi et ça participe un petit peu de la même inspiration.
Dans les 11 000 documents, j'ai dit 4 000 correspondances, 400 livres, et il y a à peu près peut-être 4 000 coupures de presse. Hein. Donc j'en ai sorti quelques-uns pour vous montrer comment il faisait. Alors nous, on les a reclassés, mais il les classait lui-même, hein, donc par thème, et ça lui servait. De Luc Taron, le petit assassiné des bois de Verrières. Les policiers étaient aux obsèques du petit Luc, l'enfant assassiné. Voilà, vous voyez, donc on les a classés par thème.
Je comprends pas bien. Hein. Vous achetez un mafiataille et vos macs le lardent de coups de couteau. C'est pas ce qu'il avait dans le portefeuille, quand même.
C'est pas eux qui l'ont tué.
Le salaud qui mijote des saloperies.
Il m'a pas dit qui. Il m'a juste dicté la lettre à l'hôpital.
Il a été agressé où?
Rue Roite.
Je pensais que la rue Watt allait m'éclairer, mais cette histoire à l'image du temps était de plus en plus brumeuse.
Nous nous trouvons rue Watt, dans le 13e arrondissement, une rue qui est très emblématique de l'univers de Léo Mallet, notamment d'un de ses romans qui est Brouillard au pont de Tolbiac. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'atmosphère de cette rue ?
C'est une rue dans laquelle Mallet ne reconnaîtrait sans doute plus rien du tout. Mais dans son état actuel, il y a un fil conducteur, je trouve, avec le brouillard au pont de Tolbiac. C'est son aspect qui flirte avec le sinistre quand même. Cet aspect déglingué, lépreux. Là, c'est la lèpre du béton et des chantiers souterrains et de la non-finitude, qui est une. C'est pas la même lèpre que
que celle plutôt de la misère de la rue Ouette de Brouillard au pont de Tolbiac. Mais oui, il y a quelque chose en ce moment-là. C'est une rue qui ne vit pas, parce qu'il n'y passe pas un chat, soyons francs. Il ne passe pour l'instant que des voitures, et là, sous cette arche, que le train. Mais oui, c'est les soubassements de la ville, c'est les bas-fonds de la ville, c'est l'autre côté du décor. Et puis c'est un lieu aussi, à l'évidence, qui vit une tentative de réappropriation, puisqu'il y a beaucoup de graffs et de tags urbains, ce qui veut dire que des gens se réapproprient ce lieu, ce qui est... Ça, c'est intéressant, par contre. Donc il y a comme ça un univers qui renvoie directement au passé, parce que la rue Ouatt est une rue qui a été très souvent utilisée dans le roman policier, de par son côté comme ça sombre, encaissé, demi-souterrain. C'est une rue qui a été chantée aussi. Boris Vian a fait une très belle chanson sur la rue Ouatt. Donc c'est une rue qui est un peu emblématique. Donc on sait aujourd'hui qu'elle est détruite, qu'elle est cassée. Et magie, quand on vient dans ce chantier de la rue Ouatt, on dirait que son âme revient à travers sa destruction, parce que ce côté mystérieux, cassé, souterrain, revient dans le béton, quoi. Donc on a l'impression que c'est une rue qui n'a pas envie de mourir, qui se transforme, mais qui veut garder sa gueule couturée.
Ce Paris que l'on trouve présent dans les nouveaux mystères de Paris est presque un personnage à part entière. Enfin, il fait partie de l'histoire. Et quelle vision de Paris nous donne Léo Mallet ?
Je crois qu'il nous donne à voir un Paris populaire, à travers les quartiers, à travers sa description des quartiers, à travers ses ambiances de quartier. C'est le Paris populaire, celui de Léo Mallet. Et c'est ce qui en fait tout le... Charme, alors on peut le juger daté, parce que c'est, voilà, mais il n'est pas plus daté qu'une photographie de Doineau. Effectivement, c'est un Paris qui disparaît non seulement d'un point de vue architectural, mais peut-être d'un point de vue des milieux sociaux qui y sont représentés. On peut mettre Mallet dans la catégorie des grands marcheurs de Paris, comme Rétif de la Bretonne ou Sébastien Mercier au XVIIIe siècle, et dans un tout autre esprit et tout autre genre, Modiano aujourd'hui. Voilà, c'est des gens qui marchent et qui s'imprègnent de leur Paris. Et celui de Mallet est un témoignage d'un Paris qui n'existe plus, mais qui porte en gestation celui qui va lui succéder.
D'ailleurs, il y a un roman très, très intéressant à ce titre-là, c'est celui qui se déroule dans le 16e, qui part vraiment le quartier bourgeois et, par excellence. Et, c'est une grande bourgeoise qui fait appel à lui pour enquêter. Et dans ce Paris-là, Nestor Burma va découvrir la vengeance des loufias, c'est-à-dire la vengeance des gens qui servent les bourgeois. Il y a un personnage clé qui organise cette vengeance, qui est une vengeance sexuelle, c'est-à-dire que les chauffeurs se tapent les bourgeoises pendant que les maris font des affaires. Et ça, c'est très organisé. Et Léo Mallet raconte ça de manière très, très, très amusante, avec ce personnage qui explique qu'il a été au service des autres pendant très longtemps. De leur morgue, et qu'il a décidé de se venger et que ça marche pas si mal que ça.
Oh, Nestor, Nestor!
Pour rester à ce personnage et surtout à cette sorte d'épopée des nouveaux mystères de Paris, d'abord, comment c'est venu les nouveaux mystères de Paris?
C'est venu d'un jour que j'étais fauché, ce qui m'arrive assez souvent au cours de mon existence, et j'étais en pétard après les gens qui font du cinéma et qui n'avaient pas pensé à faire appel à un type génial qui s'appelait Léo Mallet. Et je disais, et pourtant, ces imbéciles qui vont tourner on ne sait où, dans des studios ou au Diable Vauvert, s'ils n'ont pas vu qu'il y avait Paris, c'était le décor le plus prestigieux pour faire se passer des histoires policières. Et ça, d'ailleurs, l'avait bien compris Louis Feuillade, qui, avec les vampires, Fantomas et tout ça, s'était servi de Paris. À ce moment-là, je faisais des paquets chez Hachette. J'étais emballeur chez Hachette. Et parce que j'avais eu une période faste après 120 rue de la Gare, et puis j'étais tombé dans une période moins faste. Ça, c'est la loi j'appelle ça la loi de Nestor Burma. C'est un truc en dents de scie. On monte, on descend, et jusqu'à ce qu'on se casse la gueule. Mais enfin, c'est la loi de Burma. Donc, je faisais des paquets chez Hachette, et j'écris à Maurice Renault, le directeur de Mystère Magazine, avec qui j'étais en rapport. Je lui dis que j'étais bien embêté de faire ce métier, et tout ça, bien sûr. Les gens avec qui je travaillais étaient charmants, mais enfin, si je pouvais continuer à écrire des livres, car récemment, il m'était venu une idée... Faire des romans qui se seraient passés chacun dans un arrondissement déterminé, qui n'en serait jamais sorti, c'est-à-dire, par une formule paradoxale, le drame clos.
Dans la ville ouverte.
Dans la ville ouverte.
Chanson de banlieue, sur un mode crapulo-populiste. Cette bluette devrait être chantée par une femme. Nous n'en avions pas sous la main, aussi me suis-je dévoué. N'en tirez pas de conclusion hâtive, s'il vous plaît. Allons-y, maestro. C'était à Pantin, derrière une usine, qu'à 16 ans j'ai perdu mon berlingot. Avec un mecton qui tenait la cantine et qui m'a baisé sans lâcher son mégot. Depuis ce jour-là, ça est la turbine avec les chiffres-tirs et les mandigots. Et c'est parfumé à l'huile de machine que nous faisons l'amour dans les goguenots.
Patrick Pêchereau, vous êtes sensible au style de Léo Mallet et à cette utilisation de l'argot ?
Oui, il a un style très particulier. C'est résumé dans un exercice littéraire qu'un quotidien, en l'occurrence Le Figaro, avait fait faire à plusieurs auteurs de polar, où il s'agissait d'inventer une histoire à partir de cette phrase tant décriée par Valérie, qui est « La marquise sortit à 5 heures ». Voilà, le début de la nouvelle de Mallet, c'était « La marquise sortit à 5 heures, aussitôt je lui filais le train ». Je crois que ça résume assez bien Mallet, c'est-à-dire qu'il est capable d'employer l'imparfait du subjonctif et de le dynamiter tout de suite après par une expression populaire. Mais je rejoins assez Jacques Baudou, c'est pas de l'argot. L'argot est une langue qui est faite pour ne pas être comprise au départ. Hein, c'est l'argot des truands, c'est l'argot de François Villon, c'est l'argot des coquillards, c'est l'argot des bouchers, le louche-bem, etc., qui est fait pour ne pas être compris par d'autres populations pour rester... Voilà, c'est une langue un peu ésotérique. Un auteur qui écrirait en argot serait très peu compris. Donc Mallet utilise des mots qui ont été des mots d'argot, mais qui sont passés dans le langage quotidien. Et le langage quotidien, c'est celui des gens de la rue. Donc à l'intérieur d'un style très classique, Mallet, c'est pas un dynamiteur du style, par contre. Il a une langue, une écriture très classique, à l'intérieur de laquelle il introduit des expressions populaires. Il ne casse pas la langue comme peut le faire Céline, par exemple. Il respecte la langue, il y a même de l'imparfait du subjonctif, encore une fois, mais dedans, il va mettre des mots qui sont éminemment porteurs d'atmosphère. Quand il file la comète, par exemple, voilà, il traîne, il n'a pas d'argent, il file la comète. Aussitôt, on sent quelque chose. Ça renvoie un peu à certaines chansons de Bruant, à la bastoche, filer la comète et la cloche, des choses comme ça. C'est ça, Mallet. C'est l'utilisation d'un parler populaire avec une poétisation de ce parler populaire dans un style qui est éminemment classique.
Burma, dehors. Dehors !
J'ai été le nègre d'un maître chanteur. Il ne savait ni lire ni écrire, c'est moi qui lui écrivais ses papiers. Alors vous savez, dans ce milieu-là, j'en ai vu des gars. Hein. Alors ça m'a aidé plus tard.
Vous n'aviez pas honte, hein ?
Non, pas non. Du tout, parce que le maître chanteur, après tout, il fait un bon travail. Il fait chanter des canailles. Il extorque de l'argent à des types qui sont plus dégueulasses que lui. Non, je crois que ça, c'est pas mal.
Vous aviez votre morale, vous l'avez
oui,
toujours.
Oui, ah, mais je l'ai toujours, j'ai personnelle. Une morale personnelle. Une morale personnelle qui fait que je ne rougis pas quand je me regarde dans une glace. Il y a des choses que je ne ferai pas.
Mais je n'arrive pas à comprendre, Léo Mallet, pourquoi vous obstinez à ne pas écrire. J'imagine que dans un temps très proche, vous reprendrez le sillon, non ?
Je ne sais pas. Non, vraiment, franchement, mais je suis moi-même très malheureux, vous savez, parce que je pense à mes personnages...
Mais ça ne dépend que de vous.
Comme si c'était des gens qui étaient morts et que je ne retrouverais jamais. Mais parce que...
Il y a de la vanité, là. Hein ?
Non, le fil est cassé. Le fil est cassé. Non, mais vraiment, là, je parle sérieusement, c'est très attristant. Le fil est cassé. Je voudrais les ressusciter, mais c'est dur. C'est dur parce que le cerveau ne travaille pas de la même manière. Hein.
Vous êtes donc l'homme d'une époque et vous voulez rester avec
peut-être,
vos souvenirs.
Mais d'ailleurs, si je continue ma série des Nouveaux Mystères de Paris, je les ferai se passer en 1926 ou 1930. Et alors là, comme ça, je ne serai pas gêné par le décor. Parce qu'actuellement, c'est le décor qui me gêne. Vous comprenez, en face, là, le front de scène, dans le temps, il y avait le Veldiv, il y avait la rue des Usines où demeurait Madame Sacco, la voyante dont parle André Breton dans Nadja. Et tout ça a disparu, tous ces petits bistrots, ces petites rues poétiques ont disparu. Alors je ferais se passer mes bouquins dans les années 30. Simonin avait une phrase très bien, il disait « Je me sens bien dans ma peau, mais je suis mal dans mon siècle ».
Léo Mallet est-il resté anarchiste toute sa vie ? Silence.
au sens de l'idée anarchiste, non, sans doute pas. L'anarchie correspond quand même à une philosophie du monde et pas simplement une philosophie de la vie individuelle. Donc à ce sens-là, non. Mallet a eu des prises de position assez contradictoires, contrastées, a eu une évolution qui ne l'a pas mené vraiment vers la poursuite de ses idées anarchistes. Mais en dehors des clous, certainement, oui.
Mais il faut dire, pas à la décharge de Léo, on n'a pas besoin de faire un procès. Il a essayé de gagner sa vie en écrivant. Il a été frappé de stérilité littéraire pendant quelque temps, à la suite de cet épisode du déménagement, mais aussi par le fait que les nouveaux mystères de Paris n'ont pas été un succès de librairie. Robert Laffont a arrêté la collection, et qui s'est retrouvé dans une misère noire que pendant des années il a vécu d'abord parce que sa femme travaillait et ensuite parce qu'il y a eu il a été aidé par des subsides ou par des quêtes faites par des amis. C'est quelqu'un qui a vraiment connu la misère.
Maya, ça vous dit quelque chose?
Non. Tout ce que je sais, c'est que dans le hall, il y avait deux hommes qui couraient après un couple.
Vous pouvez les décrire?
Non, ils étaient assez typés.
Ah, des bronzés, quoi.
Enfin, moi.
Quoi?
Enfin, vous n'avez pas lu la dernière circulaire de l'intérieur? Pas d'allusion raciste.
Oui, si on peut plus.
La fille, quel genre?
Très jolie, mais très typée aussi.
Et le type qui l'accompagnait?
Ah, bah lui, il était de chez nous.
Vous pouvez préciser?
Bah, vous savez, il est passé en courant, je sais pas, moi, quelqu'un de sportif, élégant, plutôt bel homme.
Burma!
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Je sais pas, je peux pas expliquer, c'est l'intuition policière. Merci.
Attendez. Hey, Burma vient de chez nous, hein.
Vous foutez du monde, Burma. Hein. Vous vous foutez du monde!
Qui était cette jeune femme avec qui vous étiez?
Une jeune femme? Quelle jeune femme?
Faites pas l'andouille, Burma. Une jeune femme très typée.
Non, la circulaire de
l'intérieur... Mais ça va, je m'en fous.
Mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait
Raphaël Sorin.
Beaucoup moins rire, c'était en... Il n'y a pas très longtemps, dans Libération, un long entretien que vous aviez accordé à deux jeunes gens, dont l'un d'ailleurs est mêlé au livre présent, ouais. Bayon et Cazoar. Et là, vous disiez des choses. Bon, je veux bien qu'il y ait une part de provoque, une part de... Il y a un côté...
Raciste, disons le mot.
C'est pas raciste, non. Il y a un côté, je prends le contraire de l'opinion dominante. Mais il y a des propos qui sont de vous, puisque vous ne les avez pas dénoncés, où vous dites, par exemple... Alors écoutez, je vais vous dire une chose, les Arabes m'emmerdent, je ne les aime pas, je les tiens tous pour des cons. Et ça continuait comme ça. Or c'était au moment où Le Pen commençait à apparaître, à émerger, à devenir quelqu'un de très important.
Mais ça n'est pas moi qui ai fait le succès de Le Pen. Hein.
Mais là vous aviez un côté lepénisant ou lepéniste qui n'était pas vraiment plaisant. Et je dois dire qu'après avoir lu ça, je me suis posé des questions à votre sujet. Alors, il y a eu un abus de confiance? Est-ce que ces deux jeunes gens vous ont fait boire avant?
Non. Moi, je suis le bonhomme qui ne renie pas ce qu'il a dit ni ce qu'il a écrit. Il y a certains de mes bouquins, étant donné le cours de l'histoire, que j'ai écrit et que je n'écrirai pas aujourd'hui. Mais je ne les renie pas, absolument pas. En ce qui concerne cette histoire, les propos que j'ai tenus ont été fidèlement rapportés. C'est dans le feu de la conversation, mais je ne veux pas m'excuser. Mais je suis un raciste de banlieue. De banlieue ouvrière, c'est-à-dire un xénophobisme. Et tout le temps que j'ai fréquenté les ouvriers de la base, en banlieue et ailleurs, je dois constater une chose, c'est peut-être regrettable, ils n'aiment pas les Algériens.
Non mais vous, Léo Mallet, j'allais dire Léo Burma, excusez-moi, Léo Mallet, qu'est-ce que vous ont fait les Arabes, concrètement?
Ah, rien du tout.
Ben alors, rien qu'est-ce qui vous prend alors?
Rien du tout, mais c'est, comment, je sais pas, c'est physique peut-être, je sais pas.
C'est épidermique?
Épidermique, voilà, oui. Ah, mais alors, attention, moi, je réclame une chose, c'est que tous les racistes du monde soient aussi racistes que moi. Pas une goutte de sang ne tomberait.
Ah bon, vous êtes un raciste pacifiste?
On va pas emmerder quelqu'un parce qu'il est d'une autre race que vous.
Non, mais quand vous entendez un orateur...
Mais ça fait partie des trucs de l'existence, vous comprenez?
Oui, mais quand vous entendez un orateur du Front National, est-ce que vous vous retrouvez dans ses thèses sur le racisme ou pas du tout?
Non. D'ailleurs, je n'écoute pas les orateurs du Front National.
D'une manière générale, on dit aussi de vous que vous avez plus d'amis à Minute qu'à Libération, peut-être à cause d'un article de Jean Bourdier, peut-être.
Je connais très bien Jean Bourdier. Oui. À une époque, d'ailleurs, il y avait deux journaux à Paris qui faisaient l'éloge de mes bouquins. C'était Minute d'une part et Libération de l'autre. Et curieusement, Le jour où dans Minute on m'a laissé tomber, on m'a également laissé tomber dans à la Libération. D'où j'ai conclu que c'était les mêmes rédacteurs sous des pseudonymes différents.
Pour ce racisme, la situation est un petit peu compliquée. C'est quelque chose qui n'a jamais lâché Mallet.
Cédric Perolini.
Le premier texte qu'il publie, il évoque déjà, donc il a 16 ans, hein, il évoque une de ses soirées où il chante, il fait un peu d'autopromotion. Et il écrit qu'il est écœuré d'avoir côtoyé quantité de métèques. Donc, dire que Mallet est devenu raciste sur le tard, c'est pas vrai. Alors, je crois pas qu'on puisse aller jusque-là. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il s'est mis sous surveillance. Parce que ce soit dans son éducation anarchiste, que ce soit dans son éducation trotskiste, il y a une culture internationaliste, il y a un rejet des a priori, notamment des a priori raciaux, qui font que ce racisme, cette xénophobie, ces a priori raciaux, comme on les appelle dans ce milieu-là, étaient très mal vus, n'avaient pas le droit de citer. Donc Mallet va se mettre sous surveillance et va éviter de manifester ça dans les textes qu'il publie dans les années 30. Il faut lui savoir énormément gré de n'avoir pas exprimé non plus ces penchants-là sous l'occupation. Quand le discours sur l'autre, sur l'étranger, se fait plus dur de façon institutionnelle, lui, il aboie pas avec les chiens. Par contre, à la Libération, alors là, il ouvre la vanne. Parce qu'on est dans le mea culpa, on est dans le... Et les textes qu'il publie dans les années 45-50 sont extrêmement virulents. On est bien au-delà de l'incitation à la haine raciale. Hein. C'est des choses qui ne pourraient pas paraître comme ça aujourd'hui. Puis dans les années 50, quand les tensions par rapport à la décolonisation se durcissent un petit peu aussi, il fait attention, il reprend certains de ses textes et puis il les édulcore. Il le reconnaît, oui, là j'étais allé un peu loin quand même.
Et dans les nouveaux mystères de Paris, est-ce qu'on peut sentir le Léo Mallet raciste?
Oui. L'affaire Micmac Moche au Boulmiche, où là, il y a un racisme anti-noir qui est assez insupportable aussi.
Ah, raciste, 100%.
Oh, vous l'êtes peut-être aussi, monsieur.
Ça dépend des jours. Il y a une paye, j'ai aidé à la diffusion d'un canard qui s'appelait le Cri des Nègres. Mais quand je vois, par exemple, la fresque d'un cabaret antillais ne présenter que des noirs à poil, en train de gambiller uniquement avec de belles blanches aux cheveux blonds, dans la même tenue, ça m'emmerde. Cette peinture, c'est aussi la manifestation d'un certain racisme. La fraternité absolue voudrait que les blancs et les négresses participent aux ébats. Maintenant, moi, j'ai des idées qui indisposent aussi bien les racistes que les non-racistes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la question ? Je ne sais pas. Je n'ai rien contre les noirs, mais je ne me conduirai certainement pas comme Yolande. Elle couche avec un... Oui.
Et de la même façon qu'il va présenter une jeune bourgeoise qui va l'appeler Marie-Chantal, qui veut présenter un domestique, il va l'appeler Baptiste, il veut présenter une jeune juive, il va l'appeler Rachel. Mais que ça soit un cliché, que ce soit une caricature peut-être dans une certaine mesure, oui, mais je ne crois pas qu'elle soit associée ici, là, dans ce cas particulier, très particulier de la communauté juive, d'un sentiment raciste ou antisémite. Par contre, pour les Noirs, pour les Arabes, pour un certain nombre de communautés d'origine étrangère, c'est très très sensible.
Hélène, je peux vous demander quelque chose de délicat?
Si c'est de me faire rectifier la silhouette, non merci, j'ai déjà donné.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tendance aujourd'hui à lire Mallet par la fin. C'est-à-dire à jeter sur toute l'œuvre de Mallet la lumière qui baigne les années 80-90. Des années qui étaient particulièrement dures pour lui, où il avait toute l'amertume, parce qu'effectivement, il avait un certain... Il engrangeait enfin financièrement le fruit de ses efforts, mais ça arrive bien trop tard. Sa femme, malheureusement, Paulette Doucet, meurt au début en 1981. Il a énormément d'amertume, il a la haine. Et cette amertume qui baigne incontestablement des années 80-90, à mon avis, la projeter sur le reste de son œuvre, c'est un petit contresens historique. Il me paraît plus intéressant d'éclairer l'œuvre de Mallet à partir de la lumière du début. C'est-à-dire un orphelin, enfant naturel, exclu de l'école, exclu du marché de l'emploi. C'est un vagabond, enfin, c'est un SDF, il dort sous les ponts. Il fait de la prison pour vagabondage. Et avec un parcours extraordinaire, il va rencontrer plusieurs familles, les anarchistes, les surréalistes, et il va presque apprendre à lire Bien sûr, j'exagère, mais il va s'ouvrir à une conception exigeante de la littérature avec eux. Et il va écrire, et il va voir tous les surréalistes, il va voir Breton, il fait partie du premier cercle. Et il va grandir par rapport à ça. Et il va se lancer dans le roman policier, parce qu'il y a un moment où il faut gagner sa vie. Et c'est pas avec ses plaquettes poétiques et grand auteur qu'il la gagne. Donc il décide, mais finalement c'est une autre façon de ne pas séparer la vie et l'œuvre, de gagner sa vie par son œuvre. Donc en se lançant dans la littérature populaire, dans la littérature policière. Et tout ce travail d'écriture, ça va être une conquête de la légitimité. C'est pour ça qu'à mon avis, éclairer l'œuvre du début, c'est plus riche que le faire par la fin.
Vous n'avez rien contre l'argent?
Non. J'ai une secrétaire qui aime le luxe, un adjoint productif et un chat vorace.
C'est amusant parce qu'on parle de mes personnages comme si c'était des êtres vivants, et alors c'est un exercice qui me plaît beaucoup, voyez.
Mais ce sont peut-être des êtres vivants.
Oui.
Parce qu'on peut les rencontrer.
Je les ressens comme tels, puisque je vous dis, je les pleure comme s'ils étaient morts, du fait que je ne peux plus les faire revivre.
C'est le détective de choc, irrévérencieux, tout d'un bloc, gouailleur sarcastique. Il ne s'estime satisfait que lorsqu'il nage dans le plus épais jus de chic de sa pipe dont le fourneau représente une tête de taureau. Il fait les cornes à la mort, Monsieur Nestor.
C'est vraiment le double littéraire de Léo Mallet par bien des aspects.
Oui, effectivement, les romans de Léo Mallet qui ont, à mon avis, le plus de charme, les plus grandes qualités, sont ceux qui ont la dimension autobiographique la plus marquée. Que ce soit « Saint-Marc de la Gare », que ce soit « Brouillard au Pont-Olbia », que ce soit « La trilogie noire ». Là, on part vraiment dans l'intimité du personnage, parce que Mallet part à la recherche de lui-même. Dans « Brouillard au Pont-Olbiac », il se retourne sur son parcours. Voilà, j'ai été militant anarchiste. Qu'est-ce que je suis devenu? Je suis devenu flic privé. Je suis devenu auteur de romans policiers. Et finalement, c'est très proche. Et il va reprocher le parcours de ses camarades de l'époque, qui eux aussi se sont fait capitaine d'industrie, ont lancé leur scierie, etc. Mais il n'est pas dupe. Il sait que lui aussi, il tombe sous le coup de ce reproche de la même façon. Alors, effectivement, explorer ces personnages-là, c'est pour Léo Mallet une façon de se retrouver au sein de son œuvre, de savoir qui il est, d'où il vient, de trouver sa cohérence et sa légitimité aux yeux du lecteur.
Oui, Hélène. Quoi? Qui?
Donc, par rapport à cette angoisse du double, c'est vrai qu'il ne peut pas vraiment s'appuyer sur son état civil pour retrouver son unité, parce que l'état civil lui-même est problématique. Il va s'imposer régulièrement l'épreuve du miroir, se regarder dans une glace. À tous les sens du terme, à la fois moralement et physiquement, chercher l'identification à lui-même. Et c'est quelque chose qui apparaît très régulièrement aussi, dans ses poèmes notamment, il ne voit pas son reflet dans ce miroir. Ce n'est pas lui qu'il voit, il est toujours confronté à cette étrangeté. Y compris dans les romans policiers, Nestor Burma nous dit, un peu plus tard, en passant devant la glace, je vis un type à l'air mauvais, très mauvais, une vraiment sale gueule. Il y a ce sentiment d'étrangeté face à son propre reflet qui nous renvoie, et qui renvoie en tout cas Mallet, à l'idée du reflet du vampire.
Puisque le vampire n'a pas de reflet dans le miroir.
C'est en tout cas ce que nous dit Bram Stoker. Et Mallet va être très impressionné par cette idée-là, et très régulièrement, dans ses poèmes, dans son œuvre romanesque, il évoque la figure du vampire, qui va avoir plein de significations. Il va être tragique, puisque c'est quand même la mort, il va être érotique, le lien Eros-Thanatos, il va être burlesque. À un moment, il explique qu'il se fait écraser la bouche par un coup de poing, et il dit « Je commençais à boire mon sang en petit auto-vampire sournois qui a des principes autarciques. »
Dans le fond, Léo Mallet, c'est un coup de colère que vous avez eu un jour, et vous êtes arrêté d'écrire parce que on vous a enlevé...
Ah, peut-être.
Vraiment, ouais. Votre climat de création. Vous savez, il y a certains écrivains, ils ne peuvent écrire que sur une table. D'autres ne peuvent écrire qu'avec un certain stylo ou à la machine à écrire.
Eh bien,
vous savez, ce sont des manias, il faut le comprendre.
Voilà. Je suis très content que vous disiez ça, car ça correspond exactement à ma situation. Mes bouquins, je les ai écrits de 42 à 59, dans une atmosphère tout à fait particulière. Et mes dialogues, que d'aucuns qualifient de brillants, allons-y, n'ayons pas peur des mots, Je les ai fait en tournant autour de ma table. J'ai une très belle table qui appartenait à Salvador Dali, c'est Dali qui m'en a fait cadeau. Je tournais autour de cette table en faisant mes dialogues. Mais dans le logement actuel, je ne peux pas, vous comprenez? Pour entrer dans la pièce de travail, dans le cabinet de travail où j'écris le peu de choses que j'écris, je suis obligé de me rogner les ongles et d'enlever mes chaussures si je peux pouvoir entrer. C'est ce genre de truc, vous comprenez? On ouvre la porte pour pouvoir mettre un par-dessus.
Au travail, Burma, bravo! D'abord de t'arrêter.
C'est terminé?
Ben oui, mort sur le coup.
Ben voilà, l'affaire est close.
peau de Nestor Burma, un documentaire de Céline Duchesnay et Gilles Davidas. Avec Jacques Baudou, Gilles Gudin de Valerin, Patrick Péchereau, Cédric Perolini et la voix de Léo Mallet.
Gilles Doré, sire de Mâchecoul, quel nom sonore aux échos de fin, Mâchecou, Mâchecu. Les dents capitales du donjon se hérissent, prêtes à mordre la jambe du ciel, comme un chien de berger les brebis qui s'égarent, remettre enfin le ciel à sa vraie place et faire l'alchimiste avec des corps d'enfant. Pour un compagnon de Jeanne d'Arc, c'est du propre.
Archivina, Arnaud Plançon et Véronique Jolivet, prise de son, Julien Bourdet et Nicolas Echen.
Je te vois plus du tout.
Mixage, Bernard Lamiel. Attaché d'émission, Laurence Genepin. Texte lu par Gilles Davidas. Voix de Nestor Burma, Guy Marchand, Philippe Nico et André Valmy.
C'est le brouillard, Henley.
Avec la participation de Stéphane Père, France Bleu 107.1, merci à Bertrand Fillodeau des éditions José Corti, Gilles Carretero et France Bleu Héros.
C'était Une vie, une œuvre de l'été, deuxième épisode de notre thématique polar avec Léo Mallet, par Céline Duchesnay et Gilles Davidas. Un grand merci à eux deux. Nous nous retrouvons samedi prochain à 17h pour une émission consacrée à Graham Greene. Et puis, sachez qu'en octobre prochain, c'est aussi sur les tables des libraires que vous pourrez retrouver Une vie, une œuvre avec, comme d'habitude, des portraits d'artistes, de philosophes, d'écrivains et même d'entrepreneurs. Nous en reparlerons. C'est à l'occasion des 30 ans de l'émission. D'ici là, très bon après-midi à l'écoute, bien sûr, de France Culture.